dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, pour l'instant, il y a Anaëlle Pijat et Sally Bonne. Peut-être un peu plus tard, Fabrice Bousteau, quand il sera dégagé des embouteillages qui encombrent si souvent la capitale. Profitez-en avant qu'il n'arrive, hein, parce que vous pourrez en dire plus en son absence. Pour cette dispute tout entière, oui, consacrée à la Biennale de Venise, nous parlerons bien sûr du pavillon français, confié à Laure Prouvot, du pavillon lituanien, couronné par le Lion d'Or, mais nous aurons aussi un regard d'ensemble sur les autres pavillons nationaux. Nous intéresserons évidemment aussi à l'exposition internationale entre les Giardini et l'Arsenal. Là, chacun proposera aussi un coup de cœur. Bref, on a un programme très chargé pour cette heure d'émission. Et nous ouvrons cette dispute avec le pavillon français, parce que nous sommes chauvins. C'est un peu l'usage quand même. Cette émission faite dans d'autres pays commencerait par les pavillons nationaux. C'est ce que nous faisons. Ce pavillon français a été confié pour cette biennale à Laure Prouvot, qui n'est d'ailleurs que la troisième femme à représenter notre pays. Ça fait pas si longtemps que ça a commencé, puisque la première, c'était Annette Messager en 2005. On a donc un certain retard. Il y a eu Sophie Kell en 2007. Et donc, Laure Prouvot pour cette édition 2019. Elle a à peine plus de 40 ans, cette artiste, lauréate du Turner Prize en 2013, qui propose une installation intitulée « Vois ce bleu profond de fondre ». Avant de décrire la dite installation, on va écouter Laure Prouvot, il y a quelques jours, au micro d'Olivia Gesbert, dans la Grande Table sur France Culture.
C'est une invitation incroyable d'aller à Venise. Déjà, Venise, c'est une ville qui flotte, une ville complètement incroyable dans sa conception, dans ce qu'elle est. Et donc, cette invitation de prendre corps dans ce pavillon qui a été créé au début du siècle, dernier. Donc, il y avait forcément, ça allait être sur ce voyage aussi bien, ce voyage pour moi aussi un retour culturellement aussi vers d'où je viens, vers la France, où j'ai grandi. Mais aussi qui nous sommes, quels sont nos... Pour moi, c'était vraiment un voyage sur l'idée de la représentation et cette arrivée à Venise qui est aussi un retour dans le passé.
Alors, exercice de description, on va en faire plusieurs ce soir. Là, c'est un tirage au sort qui a désigné Anaëlle Pijat pour décrire dans un premier temps ce pavillon français.
Cette visite est une véritable expérience puisque quand on arrive devant la porte du pavillon français, elle est fermée. Et que, en fait, pour rentrer dans l'exposition de Laure Prouvot, il faut faire le tour un peu dans les buissons, longer le pavillon et rentrer en fait par l'arrière, par une sorte de cave ou de sous-sol. En tout cas, on accède à l'exposition par des endroits qui ne sont habituellement pas ouvert au public, et il y a là une sorte d'injonction métaphysique de la part de Laure Prouvot. Donc on rentre ensuite dans ces espaces souterrains qui sont une première plongée dans l'univers de Laure Prouvot. On y voit les premières images d'un monde liquide. Il y a un sol en résine bleu ciel. D'un bleu aquatique, à vrai dire, peut-être plutôt, où sont pris des éléments divers, des coquilles d'œufs, des salades vertes, des branchages qui sont soit pris dans la résine, soit posés dessus. Il y a même deux colombes vivantes, quand j'étais là en tout cas. Et c'est par là qu'on accède à l'espace principal, qui est en fait une salle de projection. Une salle de projection installée d'une manière aussi un peu particulière, parce que le sol est un peu accidenté, il est mou. Il y a des sièges dans une sorte de ciment rocaille qui évoque un peu le décor du palais du facteur Cheval à Hauterive, à côté de Lyon. Et on s'installe là et on voit un film qui dure une vingtaine de minutes, qui donc donne son titre à l'exposition, au pavillon, et qui est une sorte d'odyssée contemporaine, comme Laure Prouvot le disait à l'instant, un film d'une très grande vitalité, dans lequel on voit un groupe de gens, de générations diverses, qui ont des activités diverses aussi. Il y a un magicien, des performeurs, un ancien professeur. On les voit avancer comme une sorte de fanfare joyeuse, une sorte de procession un peu étrange. On voit des tables qui tournent, des colombes qui s'envolent, le son est très présent, il y a beaucoup de de musique. Il y a un montage très rapide et il passe par des lieux qui ont tous un rapport à l'utopie, les tours nuages d'Émile Ayot du côté de Nanterre, mais aussi le palais du facteur cheval dont je parlais à l'instant. Il passe par Marseille et cette odyssée arrive à Venise et tout le film entretient un rapport très particulier avec cette ville et notamment sa dimension aquatique un peu fangeuse.
Ben, très bonne description, voilà, qui nous permet de mieux voir ce pavillon français. Anaël Pigeon, alors, premier commentaire, du coup, va être celui de Sally Beaune sur cette proposition de Laure Prouveau.
Alors, c'est d'abord une proposition extrêmement enthousiasmante, et comme l'a dit Anaël, une espèce de joie de cette promenade, de ce déplacement, de cette embarquée, puisque progressivement, en fait, des gens rentrent ces véhicules divers d'abord, parce qu'il y a des voitures et des chevaux, donc on traverse le territoire français pour aller jusqu'à Venise. On part de Nanterre, effectivement, et puis on remonte un petit peu dans le nord pour passer par entre Grenoble et Lyon, Audrive, oui, c'est ça, pour arriver dans les calanques de Marseille. Et on passe, en fait, de la lumière, de l'obscurité à la lumière, puisque dans le palais du facteur cheval, on est vraiment dans une espèce de nuit surréelle, un peu étrange et obscur, pour arriver dans la grande lumière des calanques de Marseille, absolument magnifique, et qui nous conduit au bout de ce voyage dans les canaux de Venise. Mmh. Alors, cette grande traversée très très joyeuse a un côté qui mélange les générations, les identités, qui joue sur des décalages, qui inclut de la magie, du surréalisme, différents récits. Donc on croise effectivement des magiciens, des vieilles dames, toutes sortes de moyens de transport, des langues et des origines diverses. Et il y a un côté presque un peu candide de cette grande odyssée, et en même temps c'est très réjouissant, très joyeux, très très enthousiasmant. Alors ça joue beaucoup sur la question de la liquidité, de la fluidité, et c'est vrai qu'il y a une sorte de contradiction assez étonnante, d'abord entre la traversée que nous propose Laure Prouveau par l'entrée, effectivement, sur le côté. On rentre quasiment sous le sous-sol, qui a été creusé. Alors, ce qu'elle racontait d'ailleurs à la grande table d'Olivia Gesbert, c'est qu'elle a tenté de creuser un tunnel entre le pavillon français et le pavillon anglais, oui. Sans doute pour réconcilier, sans doute, oui, une blague, évidemment, sans doute aussi pour réconcilier
ces deux pays, d'accord. Deux pays,
voilà, merci Arnaud.
Parce qu'elle a beaucoup longtemps vécu à Londres.
Absolument. Et elle joue sur des effets de contradiction comme ça, et notamment cette grande plateforme de résine qui contient plein d'éléments et peut sembler, et en même temps je pense que c'est aussi évidemment volontaire, et peut sembler un peu contradictoire avec cette volonté d'être dans une fluidité, dans une liquidité. Et dans l'idée de la traversée.
Est-ce qu'il y a le même enthousiasme chez vous, Anaël Pigeon, concernant ce pavillon de Laure Prouveau ?
Oui, absolument. Je trouve que sa réussite, c'est sa multidimensionnalité, c'est-à-dire à la fois ce côté très enjoué, cette vitalité vraiment très grande, cette énergie qui se dégage de ces images, et en même temps, la dimension politique assez engagée, les questions qui traversent ce film sur ce que c'est qu'une communauté, sur ce que c'est que le mélange des générations, la fluidité des identités, les dangers du réchauffement climatique. Enfin, tout un tas de thèmes que Laure Prouveau arrive à faire passer sans jamais donner de leçons, sans jamais exprimer ses messages de manière péremptoire, mais toujours en gardant cette fraîcheur et cette légèreté que je trouve assez remarquablement réussie.
Alors, c'est vrai que toute la presse annonçait un lion d'or pour notre artiste française. En fait, c'était surtout la presse française qui annonçait ça. Et de fait, c'est pas elle qui l'a reçu. C'est pas parce qu'elle a battu des records de file d'attente pendant les journées professionnelles que ça détermine quoi que ce soit, c'est juste parce que le dispositif impose des files d'attente. Sinon, Bienvenue chez les Ch'tis serait aussi grand que Citizen Kane. Moi, ça m'a exaspéré, et même je suis un peu furieux, moi, devant ce pavillon français, pour de multiples raisons. D'abord, je trouve pas ça du tout enthousiasmant, je trouve ça consternant d'inconséquence. Vraiment, je trouve ça assez grave, même de proposer un film qui Effectivement, alors coche toutes les cases des trucs politiques dont il faut parler, la jeunesse, les cités, les migrants, l'écologie. Mais alors vraiment, c'est à part cocher des cases, pour moi, ça ne dit rien. Donc, soit on traite un sujet, soit on peut pas passer comme ça en faisant les pites sur des sujets aussi graves et aussi importants dans notre époque. Je trouve que formellement, c'est quand même extrêmement pauvre parce que c'est 22 minutes, je crois que c'est ça. 22, avec un montage qui est toujours le même, c'est très rapide, des plans très courts, c'est très cut. Il n'y a aucune progression, aucune différence entre les entre les lieux qui sont traversés. Le palais du facteur cheval, qui est quand même un lieu extraordinaire, c'est traité comme le reste, c'est-à-dire en fait, comme le trip d'Easy Rider dans le cimetière, vous voyez le film qui a quand même 50 ans aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que rien de nouveau quand même formellement chez Laure Prouveau. Moi je trouve que c'est un mauvais film d'étudiant des Beaux-Arts en fait, avec par contre beaucoup de moyens. Et alors il y a une chose qui est peut-être un peu cocardière, vous allez me dire, mais dans ce film Laure Prouveau on l'entend en voix off, en anglais et en français. Quand elle parle français, les sous-titres anglais. Quand elle parle anglais, il n'y a pas de sous-titres français. J'avoue que ça met quand même à distance tous celles et ceux qui ne parlent pas l'anglais. Donc je trouve ça un peu curieux comme choix. Bref, je pourrais m'arrêter là, mais c'est vrai que c'est consternant de banalité, de prévisibilité. Et plus le film passait, et plus j'étais furieux, parce que j'attendais qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, tout est donné dans les deux premières minutes. Vous comprenez un peu, je charge un peu la barque, mais non, mais j'étais très très énervé et assez honteux que ce pavillon soit ainsi occupé, je dois dire. Comprenez, ça les bonnes, mes réserves, qui sont plus que des réserves.
Parce que c'est ce que j'essayais de signaler en évoquant le côté un petit peu candide.
Ouais. Mais vous avez dit enthousiasmant.
Oui, parce qu'au fond, on s'installe dans cette salle qui est très sombre. Effectivement, on est installé, si on a de la chance de pouvoir s'installer sur ces sculptures en fait de fauteuils pleines de pieuvres et de coquillages.
J'en ai vu la moitié sur un des fauteuils.
Oui, il y en a qui ont la chance d'y être. Bref, il y avait beaucoup de monde. Donc sinon on est assis par terre. Ouais. Et
c'est pas grave.
C'est pas très grave parce que ça dure pas si longtemps non plus. On est quand même embarqué avec eux, cette espèce de joie qui... Et je me suis laissée embarquer avec eux aussi. Mais en sortant, je me suis dit effectivement, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les préoccupations qu'il faut. Alors, je reste sur l'impression de joie et d'enthousiasme que j'ai eu, que je ne vais pas renier. Par contre, je trouve aussi que sur le fond, et je n'étais pas complètement déçue qu'elle n'ait pas eu le prix, par exemple. Enfin, ça m'aurait... Ouais. Ah ouais, inversement, ça m'aurait étonné qu'elle l'ait. Voilà.
On est d'accord. Annaëlle Pijat ?
Moi, je me suis aussi laissée assez emportée par le film, en fait. Je trouve que le travail de Laure Prouveau est inégal d'une exposition à l'autre. J'avais, par exemple, été très déçue par son exposition au Palais de Tokyo l'année dernière, qui était...
Cette année, non ?
Cette année, oui, pardon.
Ouais, ma mémoire me... Je ne sais plus en quelle année.
Enfin, en tout cas...
Il y a quelques mois,
exactement. Dans laquelle il y avait de grandes fontaines qu'on retrouve aussi dans les côtés du pavillon, puisqu'il y a des objets qui sont dans le film, qui sont montrés comme des sortes d'installations.
J'avais évité d'en parler parce que là, franchement, on touche le fond.
J'en ai pas parlé non plus. J'en parle en tout cas rapidement. Ce qui est vrai, c'est que on voit dans ce pavillon une sorte de cristallisation de tout ce qui anime Laure Prouveau depuis plusieurs années, c'est-à-dire ce thème du road trip qui existe dans beaucoup d'autres de ses films, que ce soit du côté de Rochechouart, que ce soit l'épopée qu'elle a fait à Los Angeles, que ce soit... On voit réapparaître dans ce pavillon toutes sortes de thèmes qui, effectivement, ce rapport à la langue aussi, qui est très singulier, elle en joue parfois de manière un peu énervante en effet, mais puis il y a cette question du poulpe qui est aussi un peu étonnante parce que c'est un peu un des objets récurrents qu'on voit apparaître dans un certain nombre d'installations.
Oui, mais moi,
dans des expositions aujourd'hui.
Je ne préférais pas en parler parce que je ne suis pas sûr de savoir ce que représente ce poulpe.
Oui.
J'ai quand même une idée et la façon dont il est traité et, on va dire, manipulé est pour le coup assez dérangeante. me semble-t-il. Bon, non, mais on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on a beaucoup d'autres sujets dont on va parler ce soir. Je vous laisse finir votre phrase.
Oui. Cela dit, je trouve que tous ces thèmes qu'on connaît dans l'œuvre de leur Prouveau sont dans ce pavillon cristallisés d'une manière qui est quand même assez tenue, même si effectivement elle coche toutes les cases des thèmes qu'on va retrouver d'ailleurs dans un certain nombre d'autres propositions de la Biennale.
Bon, alors il y a eu un Lion d'or tout de même. Et ce Lion d'or, il a été décerné au pavillon lituanien, présenté alors en dehors de l'Arsenal, même si tout près, à Vol d'Oiseau. Au moins d'ailleurs, l'entrée y est gratuite. On va pas décrire ce pavillon tout de suite, on va se mettre dans l'ambiance de sa musique. Alors que se passe-t-il dans ce pavillon lituanien ? Alors d'abord, c'est un lieu assez étonnant, un lieu militaire hein, pour le coup, même si on n'est pas à l'arsenal, on est quand même dans une installation militaire, on traverse des très beaux jardins, bâtiments assez étonnants, et puis en progressant tout au fond, on finit par trouver une entrée, on dit de monter, de prendre les escaliers, et puis on se retrouve sur un pourtour de bois, de très beau bois d'ailleurs, très belle planche de bois, et puis une ouverture centrale qui nous fait regarder vers le bas, et en bas, il y a une plage. Ça, elle est bonne.
Oui. Ouais. Une plage avec des baigneurs, ouais. Des gens en maillot de bain, hommes, femmes, enfants, même petits chiens, qui sont sur des serviettes, qui se mettent de la crème, ouais. Qui lisent des livres, qui regardent leur téléphone portable, qui jouent, qui se promènent, et puis qui chantent. Ouais. Et en fait, le seul spectacle, et c'est le terme d'ailleurs, c'est un spectacle, puisque c'est un opéra performance, c'est ça. C'est-à-dire qu'on monte un peu dans l'obscurité, cet escalier qui nous mène sur cette plateforme de bois, et ce qu'on voit, en fait, en arrivant, c'est un puits de lumière, puisqu'on ne voit rien d'autre que en fait, cette plateforme de bois, et puis cette lumière qui vient d'en dessous, et quand on se penche, eh bien, on a cette plage qui n'a ni mer ni soleil, et qui joue aussi sur cet illusionnisme-là, ou en tout cas sur l'absence d'illusionnisme, parce qu'il n'y a pas besoin de mer, il n'y a pas besoin de soleil, puisque ce qui est évoqué là, c'est la question de leur possible absence et de leur possible extinction. Donc on est, en tant que spectateur, en fait, en surplomb, sur ces individus qui font comme si on n'était pas là. Donc ils se promènent et ils chantent, en fait un opéra, c'est-à-dire chacun prend la parole successivement pour évoquer soit des choses très banales et très frivoles qui tiennent de l'interrogation sur la qualité de la crème solaire et son indice, ou bien des interrogations plus métaphysiques, ou encore des questionnements ou des problématisations en fait de questions qui sont écologiques et graves.
Alors ça, c'est ce qu'on peut voir à l'heure actuelle le samedi dans ce pavillon lituanien à Venise. Il y aura bientôt un deuxième jour où on pourra voir toute cette assemblée, parce que quand même la Lituanie a compris qu'avec le Lion d'or, il fallait rallonger un peu budgétairement, parce que ça coûte évidemment de mobiliser des personnes 7 jours sur 7. Alors moi, j'en ai vu une version qu'on pourrait dire diminuée. Je me demande si elle n'est pas augmentée, parce que moi, j'ai vu cette même installation du pavillon lituanien vide d'habitants. Et finalement, moi, c'était vraiment un vrai choc, parce que cette absence, justement, cette place désertée, il reste tous les accessoires dont vous avez parlé, les serviettes, les livres, les revues, etc., tout est mal rangé, et ça m'a fait sentir un certain état du monde, une critique de l'anthropocène, enfin, cette extinction, elle est aussi valable pour notre espèce. Je trouvais qu'il y avait à la fois beaucoup de mélancolie et beaucoup de colère dans cette proposition, alors même qu'elle est c'était un lieu désert que j'ai pu visiter. Alors ça dit, il y a pas des chanteurs, mais il y a une bande musicale extrêmement extrêmement élaborée, parce qu'elle est très changeante, elle est très peut passer de choses très légères à des choses plus inquiétantes également. Je suis resté assez longtemps malgré l'absence de spectacle, mais il était là quand même. Alors Annaëlle Pigeat, vous avez fait l'impasse sur le pavillon lituanien.
J'ai pas fait l'impasse, j'ai choisi entre l'avion et le pavillon, j'ai choisi l'avion.
Ça s'appelle faire l'impasse. Bon.
Mais en fait,
vous en avez vu d'autres.
Absolument. Ce que je trouve intéressant finalement, ce que ça dit de ces formats de biennale, c'est que ces expositions d'envergure internationale sont aujourd'hui tellement vastes qu'on ne peut pas tout voir.
Singulièrement à Venise, parce qu'on on rappelle, il y a deux lieux principaux, les jardiniers avec les pavillons nationaux, mais qui sont là depuis très longtemps. L'Arsenal, dont on va parler dans un instant, qui est un grand ensemble aussi, où certains pavillons nationaux sont insérés, mais comme il y a de plus en plus de pays qui souhaitent participer, il y a des pavillons avec des petits guillemets qui sont installés, disséminés, mais dans toute la ville de Venise, qui pour n'être pas très grande quand même, nécessite d'abord une bonne paire de jambes et de chaussures pour la marche. Voilà, parenthèse fermée. Voilà.
Non, mais du coup, la question qui se pose, je trouve, à propos de ce pavillon, c'est d'une certaine manière celle de sa visibilité, puisque effectivement, il est dans un endroit reculé, il faut marcher pour y aller longtemps.
On ne va que pour lui, parce qu'on est au bout d'un bout de Venise. Là.
Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette question de la visibilité se pose aussi à travers celle de la performance et du fait qu'il y a peu de jours, peu d'heures finalement dans la semaine pendant lesquelles on peut voir cette performance. Et en fait, je trouve ça une chose assez intéressante parce qu'il arrive finalement assez souvent aujourd'hui, je trouve, que dans des expositions de ce type, des artistes choisissent des formats alternatifs finalement, qui soient un peu des réponses à l'hyperconsommation de la production des œuvres d'art devant laquelle on se trouve et qui choisissent des formes peut-être plus légères, plus impalpables, plus intangibles et peut-être plus poétiques. Et c'est finalement le sentiment que j'ai eu à travers ce que j'ai perçu de ce pavillon en regardant sur Internet, puisqu'il y a aussi une certaine efficacité visuelle qui passe par Instagram, qui passe par toutes les images de ce pavillon et les extraits vidéo qu'on peut voir sur Internet. Le paradoxe, c'est que finalement, cet usage de la performance, bien que plus léger matériellement, est en fait extrêmement cher et qu'on se trouve aussi devant une question qui n'est pas nouvelle, qui date des années 60, qui est celle de la trace de la performance et de savoir ce que l'on peut faire et le statut qu'on accorde à ces objets et de la manière dont on peut à la fois conserver une trace et traduire une performance quand les performeurs ne sont pas là, c'est-à-dire la plupart du temps. Et c'est toutes ces questions qui sont à l'œuvre, je trouve, aussi dans ce pavillon qu'effectivement je n'ai pas vu.
Bon, alors tant que Fabrice Bousteau est dans l'ascenseur qui va mener à ce studio du 6e étage, flambant neuf, à suivre dans la dispute les autres, d'autres pavillons nationaux et puis l'exposition internationale.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Ben oui, il a fini par arriver. Fabrice Bousteau, bienvenue. On a parlé, en votre absence, des pavillons français et lituaniens.
Je vous ai écouté, évidemment, Arnaud.
C'est vrai ?
Mais bien sûr.
Alors, un tout petit post-scriptum. Laure Prouveau, le pavillon lituanien, votre regard, mais alors très synthétique, Fabrice, évidemment.
Laure Prouveau, je ne partage pas votre avis, Arnaud. Moi, j'ai été aussi très enthousiaste.
Je reste seul.
J'ai trouvé que c'était une installation extrêmement poétique. Avec un grand rythme. Évidemment, d'une certaine manière, c'est un portrait poétique d'une France d'outsider. On ne peut pas dire que ça traite des questions politiques, des questions sociales.
Je ne demande pas ça. Hein.
C'est de la pure poésie de la part de Laure Prouveau. Moi, j'étais fasciné. Vous n'avez pas parlé assez, par exemple, du magicien. Il faut imaginer que tous ces personnages ont été rencontrés autour du road trip.
Oui, bon, enfin bref. Easy Rider, il y a 50 ans. Fabrice Bousteau, le pavillon lituanien, là, pareil, une synthèse en 30 secondes de votre sentiment. Grandeur méritée ou pas ?
De l'enchantement, mais un foutage de gueule quand on ne prévoit pas que ça puisse fonctionner toute la durée de la biennale. Ça me scandalise parce qu'en définitive, effectivement, le pavillon a gagné le prix parce qu'évidemment, on a quasiment tous vu tous les pavillons. Enfin, moi, je les ai tous vus. Évidemment, c'était cette année, d'ailleurs, les pavillons étaient de très mauvaise qualité.
On en parle dans un instant.
Et on était vraiment enchantés. Mais ils ont triché. parce que c'est un spectacle. Donc un spectacle face à une sculpture, on n'est pas dans la même mesure. Et puisque ça ne joue que deux jours par semaine au mieux, je trouve que c'est une vaste tricherie. On devrait presque enlever le Lion d'Or au pavillon.
Bon, alors, vous avez dû rater dans l'ascenseur mon propos là-dessus. Moi, je trouve très fort vide ce pavillon lituanien. Mais vous réécouterez l'émission, mon cher Fabrice, parce qu'il se passe encore d'autres choses. Enfin, ce morceau que vous n'avez pas entendu. Alors, après cette mise à jour Bousteau 2.0, en dehors de ces pavillons français lituaniens, je vous ai demandé... C'est très, très difficile hein, de choisir, et pour le pire et pour le meilleur, les pavillons que vous avez retenus. Alors, comme vos camarades se sont déjà largement exprimés, Fabrice, à vous de commencer sur ce pire et ce meilleur pour vous.
Alors, le meilleur pavillon pour moi, c'est un pavillon clandestin. C'est le pavillon réalisé par Banksy, qui a débarqué sur Place Saint-Marc. Et qui est arrivé Place Saint-Marc, il faut imaginer avec comme un vieux peintre du début du XXe siècle, avec un chariot qu'il poussait et qui s'ouvrait un petit peu avec une tonne de chevalets, et il les déployait, il a déployé cette sorte d'énormes chevalets, et qu'est-ce qu'on voyait? Une somme de petits tableaux genre Montmartre, et qui en fait reconstituait un de ces grands bateaux, pour le citer clairement, de la société MC, Opéra. Et grands bateaux, vous savez, ces bateaux gigantesques qui transportent jusqu'à 3000 passagers, qui sont des bateaux quasiment comme des immeubles.
Dantin s'est fracassé sur un quai de Venise il y a trois jours.
Exactement. Donc Banksy était...
C'est Banksy aussi ou pas?
Non, mais je pense pas, mais je pense que Banksy a été vraiment été prophète. Et ça, c'est incroyable, parce qu'il a réalisé cette installation avec ses bateaux. On pouvait acheter des parties de ces petit bateau, il était évacué par la police.
Ben forcément.
Et cinq jours plus tard, un bateau s'échoue dans Venise et il voulait vraiment dénoncer cette pollution.
J'ai dit fracassé, j'exagère.
Voilà, voulait dénoncer cette pollution écologique.
Beau choix. Le meilleur, puisqu'on est sur le meilleur, ou le pire, vous commencez par ce que vous voulez, Anne Pigeat.
Le meilleur, je le donnerai au Ghana, parce qu'il coche lui aussi beaucoup de cases. Alors c'est la seule chose qui est un
bien,
peu embêtant.
Je vais être d'accord avec vous à 1000%.
il les coche vraiment. Alors c'est un pavillon qui traduit la dimension géopolitique de la biennale. C'est aussi un des rôles d'une biennale comme celle-ci, que de formuler des hypothèses sur le monde dans lequel on vit. Donc c'était comme le pavillon du Venezuela qui était fermé, par exemple. On peut lire des choses à travers ces pavillons. C'est un pavillon qui montre l'état d'une scène et d'un pays d'un point de vue économique, un peu philosophique, d'un point de vue naturel aussi, qui montre aujourd'hui une sorte de nouveau dynamisme avec une scénographie extrêmement séduisante faite par l'architecte David Ajay et permétrisée avec des courbes comme ça qui à la fois traduisent... une atmosphère, en même nous des échos entre les œuvres sans que ça soit trop appuyé, et créer un parcours qui est réversible dans un sens et dans l'autre. Enfin, tout ça est très généreux. Il y a trois générations d'artistes qui parlent aussi de la question de la diaspora. Une artiste assez jeune qu'on a un peu vue, une peintre, Linette Yadomboaké, qui fait des portraits en une séance qui sont assez liés à la peinture du 19e, jusqu'à une artiste, la première femme photographe du Ghana dans les années 50, Félicia Laban. Donc qui avait un studio à Accra en 1955, avec ce côté historique. D'ailleurs, intéressante de rapprocher de James Barnard, qui a en ce moment une exposition à Paris dans une galerie. Il y a de grandes figures comme El Anatsui, Ibrahim Mahama, le grand triptyque vidéo de John Akonfra, qui montre la nature du pays. Et puis, le conseiller artistique du pavillon, qui est Tokou Envezor, disparu entre-temps, et qui a été le commissaire de la Biennale il y a deux éditions.
Fabrice Bousteau.
Oui, pavillon extraordinaire. Moi, je mets un bémol quand même, parce que c'est pas le Ghana d'aujourd'hui, puisque la majorité de ces artistes vivent aux États-Unis.
Oui, c'est pour ça que je
parle de la diaspora. Donc, il y a un moment donné où, est-ce que c'est vraiment le pavillon du Ghana?
Alors, pour vous, elle a vécu combien de temps en France? Argument réversible. Bim, à partout. Non, le triptyque d'Acomfrey est extraordinaire. Pour le coup, moi, je suis resté les 50 minutes. Et je trouve que c'est d'une... Alors, vous parliez de poésie tout à l'heure pour leur provo, le mot me semblait un peu mal choisi. Mais là, je trouve qu'à la fois, il y a la magnificence des paysages, etc. Mais il y a une insertion d'images, de photos d'archives, de films d'archives qui vient tresser l'histoire coloniale et postcoloniale de façon extrêmement saisissante. Enfin, c'est un film qui à la fois est merveilleux et en même temps qui fait froid dans le dos à bien des égards. Et je trouve qu'il y a une science des montages parallèles qui est absolument magnifique.
Oui, à part les visions de paysages qui font un petit peu National Geographic, j'ai trouvé. Mais sinon,
quand un pays est beau, il est beau, oui. Que je vous dise. Hein, il a raison de le filmer, l'aimer ce film.
Comme ça, où on traverse.
Mais on peut plus faire des choses comme ça parce que trop de gens l'ont fait et trop de gens l'ont mal fait. Ça, on n'arrive rien à la beauté tout de même. Bon, j'ai vu votre petite mot. Tiens, alors donnez-nous votre pavillon détesté, Sally Bonne.
Détesté ? Ouais. Alors, c'était trop difficile comme question. Mais
ah, c'est vrai ?
Oui.
Ah, mais, il faut
mais
y aller.
En même temps, non, mais je veux bien assumer, mais c'était quand même difficile. Mais ça serait peut-être le pavillon égyptien.
Il était gratiné.
Je suis navrée, mais quand même hyper kitsch, avec une allée...
C'est souvent kitsch,
on rentre dans un endroit un peu sombre et on a une allée de sphinx dorés dont les têtes ont été remplacées par des écrans et j'ai quand même trouvé
ça... Et une
ça
parabole aussi.
Assez terrible.
Ouais. Voilà. Ouais, bon, d'accord, ça marche. Vous avez le droit d'enchaîner avec votre pavillon coup de cœur, alors.
Donc, le meilleur, pour moi, en tout cas, c'était le pavillon du Luxembourg, qui était représenté par un artiste portugais, enfin portugais et luxembourgeois, puisqu'il est d'origine portugaise, mais il vit au Luxembourg, qui s'appelle Marco Godinho. Et son intervention, qui s'intitulait Written by the Sea, donc écrit par la mer, proposait une immense pente construite au milieu de ce pavillon qui était dans l'arsenal au premier étage, donc sur un sol en bois. Et sur cette grande pente, en fait, qui faisait, je pense, 2,50 m sur la plus grande hauteur. Il y avait un millier, peut-être, ou un peu moins, j'exagère sans doute, des cahiers d'écoliers, en fait, qui ont été ramassés aux différents endroits autour de la Méditerranée, qui ont été trempés dans l'eau, et d'où le titre de l'exposition, Written by the Sea, c'est-à-dire trempés dans l'eau, avec cette idée que la mer, en fait, transportait des récits. Et ce qui est... Alors,
et en plus, sous l'escalier, ces vidéos.
Sous l'escalier, il y a des vidéos où on voit effectivement les cahiers
détrempés.
Comment les cahiers sont trempés. Puis il y a aussi une autre vidéo où on voit un personnage qui lit des passages d'Homère, de l'Iliade ou de l'Odyssée, plutôt de l'Odyssée d'ailleurs, et qui jette ses papiers justement à l'eau. Et au fond, on peut y voir, et sans doute ça y est, des questions liées à ce qui se passe en Méditerranée, aux migrants, etc. Mais il y a aussi, et ça me semble, c'est-à-dire c'est à la fois poétique et politique, c'est aussi comment finalement l'eau et la Méditerranée en particulier, en fait, est une forme d'histoire, hein, au sens la grande histoire, c'est-à-dire celle d'une civilisation, et puis des histoires, c'est-à-dire qu'elle charrie des récits, en fait, qu'elle transporte des récits. Et au fond, ces cahiers vides, blancs, avec les pages qui sont un petit peu, donc qui sont séchées, qui tiennent parfois un petit peu toutes seules, finalement, portent dans leur absence, en fait, une multitude de récits, et j'ai trouvé ça magnifique.
Je suis bien d'accord avec vous. Et on relit Fernand Braudel après avoir vu ce pavillon. Pour le pire, Fabrice Bousteau.
Alors le pire, un pavillon, je qualifierais de terroriste, tellement il a réussi à...
Attention à l'emploi des mots.
tellement il a réussi à m'agacer, à m'énerver davantage que 40 minutes de bloqué dans les transports parisiens. C'est le pavillon, j'utilise volontairement le terme terroriste pour parler du pays. Le pays, c'est Israël. Parce que l'installation, faut imaginer, c'est une installation qui s'appelle Field Hospital. On arrive, on commence à faire la queue, on prend un petit ticket avec des infirmières qui vous font attendre dans une salle d'attente. Et on attend assez longtemps quand même. Et après, on se retrouve devant une sorte de petite cabine où la petite cabine, on est invité à crier. Sans être enregistré, sans être vu. Après, on refait la queue. J'ai oublié de dire que quand on arrive, on doit prendre un petit bracelet où il y a un mot dessus, on choisit le mot qu'on veut. Et puis, quand on arrive dans la deuxième salle, on refait la queue. En fonction du mot, on arrive devant un petit écran avec un programme. Et le programme que j'ai eu, moi, c'est 3 minutes de film d'un homme en train de se masturber. Et après, deux analyses de deux psychanalystes différents. absolument ridicule, inconséquente, et on ressort de là, mais vraiment dans un état d'énervement et d'agacement. Et j'étais avec quelques autres journalistes qui, eux, n'ont pas vu le même film, qui ont été dans un état pire que le mien.
Bon, et pour vous, Annaëlle Pigeard ?
Alors, je pourrais partager l'agacement de mes camarades et pour, enfin,
l'Égypte et Israël.
Pour Israël et pour l'Égypte, en tout cas, l'amusement aussi devant ces figures. Mais j'en ai choisi un autre qui est celui de la Russie, qui était une situation vraiment étrange, qui était annoncée comme une chose pas forcément inintéressante. C'est le musée de l'Ermitage qui est commissaire du pavillon. Donc j'étais assez curieuse. Et alors, autant il y a des mélanges contemporains et anciens qui sont réussis et qui souvent m'intéressent, mais alors là, c'est vraiment raté. C'est un degré de kitsch qui passe l'entendement. C'est une mise en scène par le cinéaste Alexandre Sokourov. Donc là aussi, je me disais que ça pouvait être intéressant. C'est lui qui a fait ce film, L'Arche russe, qui est un seul plan dans le musée de l'Ermitage pendant une heure ou une heure et demie, qui est très beau, date de 2001. Deux heures. Et en tout cas, le pavillon, c'est une sorte d'hommage au tableau de Rembrandt qui se trouve à l'Ermitage, La parabole du fils prodigue, un des chefs-d'œuvre du musée. Mais alors, on se trouve devant des figures en papier mâché qui reprennent la position du père et du fils. Enfin, c'est absolument.
Un côté pavillon égyptien dans le pavillon.
Oui, absolument, avec des vidéos en plus derrière. Et puis en bas, l'espace a été confié à Alexander Shishkin Okuzai, qui lui est un décorateur de théâtre, il y a une cinquantaine d'années. Et c'est une sorte de théâtre mécanique avec des silhouettes animées comme des pantins qui montent et qui descendent.
Sourdissant.
Bon. Et c'est une référence à la collection de peintures de l'école flamande de l'Ermitage. Mais alors, je ne vois pas. C'est même pas un train fantôme. Enfin, c'est un peu déroutant.
Régulièrement, régulièrement, la Russie a la palme d'or du pavillon plus kitsch.
Il faut l'inventer. Peut-être qu'on la prochaine édition, on s'occupera de ça. J'ai un petit coup de cœur, mais je ne vais pas le décrire en passant, mais ne ratez pas le pavillon de l'Uruguay, moi qui m'a beaucoup surpris parce que je ne les connaissais pas du tout, et je trouve qu'il y a une cohérence extérieure-intérieure qui est très réussie, une séance de l'accrochage très belle. Et pendant ce temps, je vais réfléchir au pire pavillon pour moi.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Alors, c'est évidemment toujours très difficile de parler de l'exposition internationale des jardiniers de l'Arsenal. La difficulté encore plus grande cette année, dans la mesure où nombre d'artistes sont présentés dans les deux lieux. Alors, on rappelle que le commissaire de cette biennale, c'est Ralph Rogoff, qu'il a choisi de titrer cette biennale 2019 « Puissiez-vous vivre dans des temps intéressants ?» On va l'écouter très brièvement au micro d'Euronews.
Je crois que c'est vraiment une exposition sur le présent. Elle parle de l'époque dans laquelle on vit. Cette époque est issue de notre histoire, elle ne démarre pas de rien. Et peut-être qu'elle évoluera vers un avenir ou un autre, on ne sait pas. Mais c'est vraiment une manifestation qui montre la manière dont les artistes réagissent à notre époque.
Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, ça les bonnes, mais sur ce titre-là, qu'est-ce que vous avez compris, vous, de la proposition, de l'envie de Ralph Rogoff pour cette Biennale 2019 de Venise ?
Alors, ce titre, c'est une forme de souhait adressé, hein ? Puissiez-vous vivre dans des temps intéressants ? Et la réponse, quand même, est plutôt sombre et complexe, indéniablement.
Plutôt, c'est pas maintenant, hein, ça va se passer.
On ne sait pas quand, donc c'est un petit peu vague. Et il m'a semblé qu'au fond, la question qui était posée, c'est dans quel monde vivons-nous ? Et la réponse qui est donnée par le choix des œuvres sélectionnées, c'est que les temps sont peut-être intéressants, on ne le sait pas, mais en tout cas, ils sont complexes et ils sont plutôt sombres. C'est pour ça, on ne va pas y revenir longtemps, mais que la proposition de leur Prouveau me semblait apporter un petit peu de légèreté à l'ensemble de l'exposition internationale à l'Arsenal.
Les Égyptiens aussi, c'est drôle.
Oui, effectivement, mais d'une autre manière.
De la même façon.
Donc la Biennale, elle parle de notre temps et des géographies qui la composent, qui le composent et qui la composent. Et donc, on est évoquant le tragique de l'époque, la mémoire, l'histoire, avec des préoccupations qui sont liées à l'histoire coloniale et postcoloniale, des questions raciales, quelque chose aussi autour des ruines, des temps présents et du futur, de la terre et de l'eau, beaucoup. Hein, l'eau est très présente dans cette biennale, mais aussi
ou
les genres.
Du pavillon lituanien.
Oui.
Sur la mer.
Les genres, les normes et les frontières. Alors, c'est ce que propose le titre, c'est au fond quand même pas de thématique, c'est-à-dire que c'est une question ou un souhait. Et cette absence de thématique favorise un petit peu l'impression d'éclatement que provoque l'ensemble de la biennale, tout en donnant une sorte d'aperçu ou un état des lieux des préoccupations des artistes contemporains dans le monde. Et ça a été pensé, en fait, l'exposition internationale à l'Arsenal comme au Giardini, comme... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, comme les deux faces d'un vinyle, puisqu'il y a la proposition A et la proposition B, et qu'on retrouve les mêmes artistes dans les deux lieux. Mmh. Donc A, c'est l'Arsenal, B, c'est les Giardini, et il y a un jeu de correspondance, ou justement de pas correspondance, puisque les artistes qui sont montrés, on voit un film à l'Arsenal ou au Giardini, et puis dans l'autre lieu, ce sera pas un film, mais une sculpture ou une peinture. Et donc c'est aussi de montrer la diversité des pratiques des artistes, ce qui est plutôt intéressant. Et
il y a quand même des artistes dont on voit, enfin Henry Taylor, Julie Mairetoo, pour citer deux peintres, dont on voit beaucoup d'œuvres.
La peinture, oui.
Qui sont forcément des peintures dans l'un et l'autre lieu, qui sont très présents. Enfin, j'ai pas souvenir de présence aussi forte dans les deux espaces.
Alors effectivement, pas mal de peintures dans cette biennale.
Ouais.
La peinture, mais aussi beaucoup d'œuvres monumentales, et notamment dans l'Arsenal, où une nouvelle configuration de l'espace, en fait, a été proposée par une sorte de compartiment.
Oui, il y a des stations.
Si...
Compartimentation, je pense.
Compartimentation, ça serait mieux, oui. Donc, et alors, il y a quand même, sur cette question des temps sombres, l'ouverture, en fait, de l'Arsenal, c'est un tableau de Georges Condo, avec deux personnages qui sont en train de trinquer, avec des bouteilles ou des verres. Et l'interprétation qu'on peut en faire, en tout cas que j'en ai faite, c'était qu'au fond, finalement, peut-être qu'on était dans une période de gueule de bois. C'est-à-dire qu'on entre là-dedans et il y a une espèce d'effet retour avec tous ces retours de l'histoire dans l'ensemble de l'exposition. Et peut-être que c'est la période, c'est le moment de la gueule de bois.
Alors comment vous l'avez compris, vous, Annaëlle Pigeat, cette proposition de Ralph Rugoff?
Je l'ai comprise dans le sens où, effectivement, c'est une biennale qui, au fond, n'a pas de thème. Et cette assertion était plutôt pour me plaire, parce que, effectivement, est-ce que l'art doit dire quelque chose? Ben non, pas forcément. Est-ce que l'art doit être chargé du fardeau du sens, comme Ralph Rugoff en parle en citant un des artistes, Yan Cheng, de l'exposition? Non, pas forcément. Néanmoins, je trouve que le rôle d'une de ces grandes biennales internationales, comme je disais tout à l'heure, c'est de former des hypothèses sur l'état du monde, et plutôt d'ailleurs sur le futur que sur le présent. Et puis, c'est de faire des découvertes d'artistes et d'œuvres. Or, je trouve que cette biennale, finalement, en fait, je rejoins un peu tout ce que vous disiez sur leur provo. C'est-à-dire que je trouve qu'elle cache toutes les... Elle coche...
Non. Elle cache pas toutes les causes, mais elle cache...
toutes les cases.
Et elle cache toutes les causes. C'est pas mal, hein, finalement.
C'est pas mal.
Il vient de l'Oise de Lapsus, mais il est pas mal.
Ouais, absolument. Toujours est-il que on apprend que le monde va mal, on apprend que l'écologie, c'est pas terrible, que la violence, ben, c'est pas bien, que la condition des femmes, c'est pas super non plus en ce moment, que la situation
de la guerre, c'est mal,
c'est difficile, et que, etc. Et en fait, tout ça m'a pas mal énervée. Je trouve que, alors, il y a un autre des postulats de Ralph Rugoff qui est de dire, on va essayer d'éviter la mode, puisque on peut considérer que c'est une mode, des redécouvertes des anciens artistes un peu oubliés, donc dits confirmés, mais que voilà. Donc on met en avant la jeune création. Très bien, moi je suis ravie de découvrir des jeunes artistes que je connais pas. Seulement, je trouve qu'on retrouve beaucoup d'artistes du post-internet qu'on connaît depuis 10 ans, comme Neil Belloufa, comme Antoine Catala, comme Yan Cheng justement, et que finalement on fait relativement peu de... Il y en a bien sûr, et on peut y revenir tout à l'heure, de découvertes. Je trouve que finalement cet ancrage historique manque un peu dans la structure de la biennale, et que cette idée des œuvres en miroir est très séduisante de manière théorique, mais que finalement, elle souligne plutôt la difficulté pour un artiste de produire deux choses très fortes, deux propositions très fortes, parallèlement et au même moment, et que ça n'est pas forcément le rendre service à tous ces artistes.
Fabrice Bousteau, votre regard à présent, cette proposition de Ralph Rugoff.
Alors, pour reprendre l'expression de Sally sur ce vinyle à deux faces, je dirais que ce vinyle à deux faces, il a les sillons insuffisamment creusés. Et c'est pour ça que, par moment donné, on glisse totalement dessus. D'une part, l'hypothèse de départ d'aller dire dans les deux espaces, vous n'allez pas reconnaître les artistes. C'est-à-dire que les artistes ont deux cerveaux différents, et alors vous n'allez pas reconnaître. Dans 95% des cas, on reconnaît les deux artistes. Et malheureusement, quand on demande parfois à des très bons artistes de faire deux œuvres dans deux propositions différentes, ben, y en a une des deux au moins qui est ratée. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Une exposition en fait qui n'est pas du tout réfléchie. Il a pris une playlist de tous les artistes à la mode dans les différentes générations aujourd'hui. Pas du tout une playlist d'artistes qui correspondent à l'état du monde actuellement. Parce que quand Sally vous dites l'état du monde aujourd'hui, non. Ce monde, il est afro-américain, il n'est pas du tout africain. Ce monde, il n'est pas du tout asiatique, il est très 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 peu asiatique, sauf sur certaines parties du territoire. Ce monde, il n'est pas européen. Je veux dire, l'Europe est très absente aussi, et des grosses parties de l'Europe. Quand on a été habitué à des biennales de Venise où on découvrait soudainement totalement la Chine, on découvrait l'Afrique, l'état du monde aujourd'hui, non, l'état pop, chic et qui fait flop. C'est-à-dire que c'est aussi l'état du marché de l'art. On voit, par exemple, Daniel Avery, qui était la petite vedette d'il y a deux ans. On se rend compte que la petite vedette d'il y a deux ans, qui est sympa, qui écoute de la bonne musique, qui a un bon look et tout ça, ça suffit pas. Parce qu'après, quand on regarde les tableaux... Donc, il y a un peu tout ça. Ce qui n'empêche, et c'est la beauté, la force de la Biennale de Venise... Dans cette biennale, on ne réfléchit pas, mais il y a quand même des œuvres très très fortes. Donc heureusement qu'il y a des œuvres très fortes. Et il y a une tentation aussi, parce que quand on regarde précisément l'accrochage, parce qu'effectivement l'ouverture à l'arsenal du Condo ou l'ouverture des Giardini par le Catala, moi je vois aucune interprétation, je veux dire, à part un esprit vide, c'est tout. C'est que... Tout est fait dans c'est du style.
Il y a de l'épate.
On est en pur scéno de style. Alors c'est très raté au Giardini dans l'accrochage. C'est plus réussi dans l'Arsenal parce que les espaces sont évidemment beaucoup plus magnifiques.
C'est plus facile de réussir à l'Arsenal et c'est très facile de rater à l'avant au Giardini parce que le lieu est quand même impossible.
Le lieu est absolument impossible. On est tout à fait d'accord. Restera de cette biennale quelques œuvres très fortes, des confirmations de certains artistes, comme évidemment, tout le monde en a parlé, le Christian Marclay, qui est...
Pardon. Oui, non.
Oui, non, mais ce que j'allais dire... Oui, enfin, je vous interromps.
Restera, le Christian Marclay, qui est une pièce quand même incroyable, qui s'appelle 48...
Film de guerre.
Film de guerre, et qui, en fait, pour que les auditeurs comprennent, vous imaginez un film, je le projette sur mon écran, je superpose un deuxième film et je ne garde que les bords de cet écran, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir une sorte de mise en abîme de tableaux successifs, tout ça dans un chaos et un brouhaha, c'est une
œuvre. Les 48 bandes son sont empilées aussi.
Voilà, les 48 bandes son sont empilées. On voit plus que les cadres, et donc l'œuvre, elle est totalement fascinante, et là, elle représente notre époque.
Mais qui rappelait quand même furieusement le film de Camille Henrot, Grosse Fatigue, qui a été produit pour la Biennale de Venise, et montré quasiment au même endroit.
Mais c'est une œuvre différente.
C'est bien sûr une œuvre très différente, mais c'est une œuvre qui formellement ressemble beaucoup.
Ça, je pense que c'est un petit débat de filles spécialistes.
Non.
Ne pinaillons pas là-dessus, et si vous voulez garder un tout petit peu de temps pour les coups de cœur, je crois que ça va être maintenant. Coup de cœur, donc, puisqu'il est 19h, bientôt 52 minutes, un coup de cœur pour chacune, chacun. Sally Bonne, vous commencez ?
Moi, j'en ai deux.
Il faut qu'il rentre en 1 minute 30, c'est à vous de voir.
J'en ai deux. Alors, en fait,
alors vous en faites un, s'il y a le temps, vous ferez le deuxième.
Bon, j'essaie. Non, mais je les annonce parce que vraiment, j'ai trouvé les deux films des pavillons canadiens et brésiliens assez incroyables. Le pavillon canadien, parce que...
Vous avez passé 8 jours dans le pavillon canadien?
J'ai passé pas 8 jours, mais...
Le film dure près de 4 heures.
Un bon moment. Mais ce film est assez étonnant. C'est un collectif inuit, d'artistes inuits, qui ont en fait occupé l'ensemble du pavillon, avec notamment un film qui est une fiction qui retrace en fait le moment de l'année 1961 où des membres du gouvernement sont allés chercher des familles inuites en leur demandant de débarrasser, en fait, de quitter le territoire. Et le film est très 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 étonnant parce que il met en avant des questions évidemment liées au déplacement des territoires, mais aussi à des questions liées à la langue et à l'incompréhension et à des difficultés liées à la traduction. Et c'est un film à la fois tragique et extrêmement drôle, très surprenant. Quant au pavillon brésilien, je fais vite. Le pavillon brésilien, c'est un film qui s'appelle Zvingera, qui en fait montre des danseurs de culture populaire qui sont en fait décor singulier, et c'est un film extrêmement vivant, très joyeux.
On ne sait jamais si on est face à une femme ou un homme. C'est un film.
Voilà.
Ils sont fluides. Ouais. C'est tout. Oui, plus facile quand même.
Plus facilement séduisant.
Absolument. Mais d'accord.
Hein. Mais très.
Surtout par rapport au pavillon canadien, c'est qui vrai. Est tout sauf facile, mais. Pour le coup, je trouve extrêmement réussi le film brésilien. L'installation est très belle et la gender fluidité de ses interprètes ajoute encore Fabrice Bousteau un coup de cœur dans cette biennale quand même. Un autre après votre Banksy chéri.
Deux petits coups de cœur. l'hologramme extraordinaire de Cyprien Gaillard qui est une œuvre fascinante. En fait, il a fait un hologramme d'une œuvre de Max Ernst, L'ange du foyer. C'est totalement fascinant. On le regarde, quand on passe derrière, on voit rien, puisque cet hologramme, il n'apparaît que lorsqu'on est dans le bon endroit. Il danse devant vous, il chante, c'est magique, c'est fascinant.
Et le lieu est fascinant en plus.
Et le lieu est fascinant, puisque la salle est très sombre et qu'il y a des très grands tableaux de Danvo autour d'une chapelle. C'est extraordinaire. Et autant Cyprien Gaillard s'est planté sur l'autre partie, dans la face B. Et une fascination aussi pour... quelque chose une œuvre qui m'a marqué, qui est celle d'Alex Dacorté, qui est un artiste américain des années né en 1980, qui est totalement hypnotique. C'est 57 en fait moments de la culture populaire mondiale du 20e au 21e siècle sur cette culture populaire du comics qui va du Simpson à Pinocchio, où ces personnages sont déformés, mis dans des couleurs qui n'existent pas. C'est un univers totalement fascinant, dingue, nouveau, une écriture dérangeante et à la fois joyeuse. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil.
Bon, ben voilà, un cœur qui bat fort. Anaëlle Pigeat, vous avez 1, 2, 3, 4 coups de cœur?
Alors, j'en ai plein de possibles. Motorisez-vous un coup de cœur dans le off.
Ah ben oui, bien sûr, c'est permis. On a eu Banksy, c'est le off du off. Alors, allons-y.
C'est le off du off, absolument. Mais la biennale, c'est ça aussi.
Évidemment, évidemment.
J'ai même plusieurs coups de cœur dans le off, mais je n'en donnerai qu'un. Je remarquais que beaucoup de ces coups de cœur étaient des expositions historiques. Par exemple, Pino Pascali, Günther Forg ou Baslitz à l'Academia, qui étaient très remarquables. Mais mon coup de cœur, pour de bon, c'est Kounelis à la Fondation Prada.
Un jeune qui monte.
Une exposition assez émouvante, parce que la dernière qu'on avait pu voir à Paris était à la Monnaie en 2016. Il était vivant, depuis il a quitté ce monde. C'est la première rétrospective depuis sa disparition, qui en fait c'est moins un coup de cœur pour l'œuvre qu'un coup de chapeau pour l'exposition. L'exposition qui est dont le commissariat est assuré par Germano Celante, l'homme même qui a forger le terme de l'arte povera.
Elle pose quand même une question énorme, cette exposition, c'est qu'on présente les œuvres d'un artiste qui notamment était faite avec beaucoup de bonbonnes de gaz, et que ces œuvres, en fait, entre guillemets, on présente des archéologies de ces œuvres, mais qui ne fonctionnent pas. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus allumer du gaz dans un bâtiment, et on voit les photos noires et blancs qui nous font rêver sur cette œuvre.
On revient à la question de la trace qu'on évoquait, revient à la question de la trace et de l'activation des œuvres dont on parlait pendant le pavillon lituanien, à propos du pavillon lituanien. On voit donc assez peu d'œuvres qui sont des sacs de charbon, qui sont des armoires suspendues au plafond, qui sont des peintures de roses noires absolument extraordinaires, accrochées dans un ordre non chronologique. Quelques performances, un violoncelle extraordinaire qui habite l'espace et qui crée un effet vraiment magique. Et beaucoup d'archives qui permettent dans ce lieu une relecture des années 60 et 70. Germano Celante confiait récemment à Chiara Parisi: aujourd'hui, ces œuvres ne sont plus que des rêves, car elles ne sont pas refaisables, en fait. C'est exactement ce que vous disiez, Fabrice.
Merci, donc... Anaëlle. C'est l'heure de rendre l'antenne bientôt. Il faut que je vous interrompe. Je glisse juste, on en a parlé, puisqu'on a vu au Palais de Tokyo, Angelica Mizzetti, qui est au pavillon australien. Et ça fait un bien fou de voir une installation aussi belle, aussi bien conçue, où le spectateur a vraiment la place d'exister. Le Biennale de Venise est à découvrir jusqu'au 24 novembre. Bon, mon coup de griffe viendra plus tard. Avant de conclure cette émission, après l'émission donc, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui nous a rejoint, qui va nous rappeler la question du jeu d'hier soir, donner sa réponse dans un premier temps.
La question était: de quel cinéaste connu pour ses longs plans séquences en noir et blanc stylisés, Hubo a-t-il été l'élève? Et la réponse était Bellatar.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour un autre film, Piranhas, de Claudio Giovanesi, d'après le roman de Roberto Saviano. Il est sorti en salle aujourd'hui. Quelle est la question, Joséphine?
Dans laquelle de ses œuvres, Roberto Saviano décrit-il sa situation d'écrivain menacé de mort et en exil?
Votre réponse est à adresser, ainsi que vos coordonnées postales, par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Joséphine Dumoulin, prise de son Clément Daté, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 19h, une dispute littérature en compagnie de Lucille Como, Grégoire Leménager et Romain Bec-de-Lièvre. Nous parlerons de La route de nuit de Laird Hunt, de Malamorte et d'Antoine Albertini. Il y aura un coup de cœur de Grégoire Leménager pour Oublier Clara d'Isabelle Autissier et un petit salon de Lucille Como.